Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui le dernier épisode de la série Herminie, elle. Avant de passer à la lecture proprement dite de cet épisode, je vais vous parler un peu d'Herminie, elle, et de son écriture. En fait, il s'agissait d'un deal avec mon amie Cindy de Coulon, par ailleurs peintre, et qui demeure à Salles-la-Source dans l'Aveyron. L'idée était la rédaction d'un chapitre par semaine. Pari tenu, je remercie vivement Cindy pour sa rigueur, car chaque fois que j'avais quelque chose d'autre à faire ou que je prétendais avoir quelque chose d'autre à faire, elle est demeurée complètement intraitable. Encore une fois, merci Cindy. L'histoire d'Herminiel ne s'achève peut-être pas ici, ou peut-être que si. Peut-être qu'un autre jour, je déciderai de lui donner une suite. Ceci n'est pas exclu, mais pour l'instant, nous arrêterons au chapitre 13 que je vous présente maintenant. Je vous souhaite une agréable écoute. La mansarde. Assise en tailleur sur le matelas, Herminie contemple par la lucarne la lune qui lui fait de l'œil. Un vaste manteau de fourrure l'enveloppe. Elle se sent comme un petit vison. Ses yeux brillent dans l'obscurité. Subrepticement, elle extirpe une menotte agile de la pelisse et se saisit du pain au chocolat qu'elle a commencé à grignoter avec application. Elle chantonne une sorte de berceuse de son pays. À ses pieds, Carbone, la chatte noire, ronronne doucement. Tout est si parfait. « Je suis presque là où je dois être, » murmure-t-elle. Puis, son esprit se tourne vers ses sœurs. Parfois, à la croisée d'un miroir, elle les convoque. Parfois, elles lui répondent. Pas souvent, en vérité, mais le lien est maintenu. La dernière fois, Elvige semblait se tenir dans une salle de bain assez vétuste. Elle se brossait les dents au-dessus d'un lavabo écaillé. Herminie ne distingua ni douche ni baignoire. Seulement, dans un coin, un tuyau de caoutchouc suspendu à une patère. Elvige était toujours à Budapest. Leur échange tourna court, car l'image se brouilla rapidement. Ça arrivait souvent. Il y avait longtemps qu'elle n'avait eu des nouvelles d'Orsia. Une brève entrevue début octobre. Orsia se trouvait dans un train et communiquait à l'aide de son miroir de poche, de sorte que son visage apparaissait par fragments. Un œil, la bouche, les deux yeux. Herminie n'avait pu déterminer vers quelle destination se dirigeait Orsia. Elle avait souvent mentionné l'Afrique, mais Herminie n'y croyait pas. C'était là un trop long voyage, trop ambitieux pour Orsia. Herminie se recroqueville sous la pelisse et ferme les paupières. Charles de Haute-Esclandre, dans sa si jolie petite chambre, avec ses rideaux bleu roi et son train électrique si grand qu'il occupe toute la surface du tapis, a bien du mal à trouver le sommeil. Il a beau réfléchir, il ne parvient plus très bien à comprendre comment il en est arrivé là. Rien qu'à y penser, son front se couvre de sueur, mais il ne parvient pas à penser à autre chose. Il se revoit en compagnie d'Herminie dans le vieux grenier, sous les combles, tout en haut de la tour. Curieusement, il ne se rappelle pas comment ils se sont retrouvés là-haut, tous les deux. Sa mémoire bute contre un mur de brume. Il tente de se remémorer cette soirée-là, il y a maintenant 4 jours. Une journée de vacances semblable à toutes les autres. On s'amuse avec les copains, on parle des cadeaux qu'on espère, on tente une course de luge dans la descente du pré-gazole. Le gros Paul Combe fait un vol plané extraordinaire et se coltine une énorme brosse au front. Il reste groggy durant quelques secondes. Le seul fait marquant de cette journée est la morosité de Patrick. Enfin, ce n'est pas nouveau. Depuis qu'il habite chez sa grand-mère, Patrick n'est plus vraiment le même. Mais ça se comprend. Comme on est tous potes, on évite de lui parler de ça. Mais on voit bien que ça gamberge dans sa caboche. Comme on est plus fortuné qu'à l'ordinaire en raison des fêtes, on fonce chez Bargnole et on ressort les poches bourrées de confiseries. On souffle sur nos mains gelées en gobant nos souris au caramel. À la nuit tombante, Charles se voit rejoindre la miroitière, ôter ses moufles et déchausser ses après-skis. Ensuite, c'est le trou noir. Herminie est là, devant lui, avec ses yeux jaunes verts qui le fixent intensément. Mais elle parle même beaucoup. Personne ne l'a jamais autant entendu parler. Elle mentionne ses sœurs, Elvige l'aînée. Elle n'a pas eu beaucoup de chance jusque-là. Mais Herminie en est sûre, elle va s'en sortir. Et puis Orsia, la cadette. Orsia ne reste jamais en place. C'est un courant d'air, un feu follet. On peut la croiser à tout moment, n'importe où. Elle mentionne également sa petite enfance en Hongrie. Une grand-mère, une cuisine carrelée de noir et blanc, les langos et les gundol palacinta qu'elle prépare pour ses petites filles, le pensionnat de Budapest, la méchanceté des religieuses. Herminie s'approche de Charles. Elle lui prend la main. Charles est tétanisé. Herminie explique. Il lui a sauvé la vie. Il est maintenant responsable d'elle. C'est comme ça. C'est une loi universelle. Herminie s'exprime comme une adulte. Aucun de ses copains n'aurait employé le terme « loi universelle ». Charles trouve le courage de s'insurger. « Mais non, il n'a jamais sauvé la vie d'Herminie. Mais si, insiste-t-elle, c'est toi qui m'as extirpé des cendres de Sainte-Bertille. Charles, ton père, ils étaient trois. Et en plus, Herminie est sortie toute seule des cendres. Tu es le premier que j'ai vu. Tu portes donc toute ma responsabilité. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Les choses ne se sont pas passées comme ça. Mais Herminie insiste. Désormais, Charles est son sauveur, et donc son protecteur. Soudain, l'expression de la fillette change. De grosses larmes coulent de ses yeux. Elle a lâché la main de Charles et s'est réfugiée dans le coin le plus sombre de la mansarde. Sans l'aide de Charles, elle ne sait pas ce qu'elle va devenir. Elle était si malheureuse chez les Cassot. Personne ne l'aimait. Madame Cassot avait accepté de la recueillir uniquement parce que la maman de Charles avait pu avoir Bénédicte. C'était juste de la jalousie. Herminie n'avait jamais reçu la moindre marque d'affection chez ces gens-là. Pas plus que chez le docteur Malherbe. Ni Pierre ni Patrick non plus ne l'aimaient. À l'école, elle était devenue la bête noire. S'il se passait quelque chose, n'importe quoi, c'était sa faute. À présent, elle sanglotait de plus belle. Sa vie avait toujours été comme ça. Elle n'était qu'une fillette ordinaire qui demandait un peu d'affection. « Pourquoi c'est jamais possible ? » hoquetait-elle. Complètement désemparée, Charles se rapprocha pour lui tendre un mouchoir. Herminie sourit au travers ses larmes. « Alors, tu es d'accord, Charles ? Je peux rester là ? Personne n'en saura rien. Je sais être très discrète. Apporte-moi seulement un peu de nourriture et d'eau chaque jour, et aussi mes exercices de classe. Tu vois ? J'ai pris mon cartable avec ma trousse. » C'était totalement inconcevable, mais justement, parce que ça l'était, Charles accepta. Ce soir, enfin, c'est la veillée de Noël. Toute la journée, la miroitière a bourdonné de rires d'enfants, de claquements de portes. Comme chaque année, les familles de monsieur et madame se sont retrouvées pour célébrer ensemble la nativité. Herminie tend l'oreille, mais ne parvient pas à déterminer le nombre exact d'individus occupant les lieux. Heureusement, Charles trouve toujours le moyen de s'éclipser pour lui rendre visite. Des dattes fourrées, des chocolats pralinés, des crêpes à la confiture encore tiède. À chaque fois pourtant, il lui tient le même discours. Ça ne peut pas durer comme ça. Il prend beaucoup de risques pour elle. De toute façon, on va bien finir par la découvrir. Herminie déchiquette à pleines dents dans la chair tendre des crêpes, de la confiture dégouline sur son menton. Elle ne prend pas la peine de l'essuyer. Ses yeux jaunes verts brillent. Elle se trouve très bien ici. Elle est certaine que Charles tiendra promesse. Charles s'insurge. Il n'a rien promis. Herminie hausse les épaules et s'attaque aux dates. Elle lui demande combien de personnes sont reçues au domaine. Charles hausse les épaules. Le soir du réveillon, si toutes les tantes, oncles, cousins et grands-parents sont présents, une bonne vingtaine. Comme ça doit être beau, s'extasie Herminie soudain rêveuse. Comme j'aimerais être avec vous tous. Charles se sent soudain gêné, il a honte. Elle va passer Noël toute seule, dans ce grenier, même pas éclairé à la bougie, de peur d'attirer l'attention. Il se sermonne. Ce n'est quand même pas sa faute tout ça. Mais il le sait, la présence d'Herminie va lui gâcher de moitié le plaisir des festivités. Il a soudain très hâte de quitter la mansarde, de rejoindre le tourbillon insouciant de ses cousins. Charles a tort de s'inquiéter autant. Pour l'heure, Herminie est satisfaite de son sort. Lentement mais sûrement, elle approche de son but. À minuit, après le petit réveillon, la famille au complet, ainsi que Madame Aimée, se rendent à l'église. Herminie risque un œil au travers la lucarne. Une fois enfants et parents répartis dans les voitures, pas une mince affaire, les portières claquent, les phares s'allument, les pneus crissent sur le gravier. Herminie soupire d'aise. Munie de la petite lampe de poche fournie par Charles, elle entreprend l'inspection du domaine. Elle descend l'escalier de bois mal commode, menant au second étage, qui atterrit directement dans la penderie de la chambre la plus au nord. Personne n'y dort jamais. C'est une sorte d'avant-grenier où l'on stocke de vieux meubles que l'on ne veut plus voir, mais dont on ne parvient pas à se séparer. Herminie ne s'attarde pas. Elle traverse le long couloir et dévale le grand escalier, ignorant le regard sévère des ancêtres figés dans leur cadre de bois doré. Pour l'heure, ce qui l'intéresse le plus, c'est la grande salle à manger. Elle veut s'approcher du sapin enluminé, admirer la grande table avec ses chandeliers, sa nappe rouge, son chemin de table or parsemé de branches de houx et de pommes de pin blanchies. Chaque convive possède un rond de serviette à son nom. Les couverts d'argent, astiqués au miroir, brillent de mille feux. Différentes sortes de verres s'alignent derrière des assiettes aux motifs floraux, dans les tons rouge et vert. Herminie, curieuse, s'attarde à déchiffrer certains noms. En découvrant celui de Bénédicte, qu'on a placé entre Charles et un certain Louis, elle résiste à la tentation de le jeter au feu. Elle tire une chaise, lourde et haute, et prend place, rêveuse. Du bout des doigts, elle effleure les couverts, en éprouve la froide douceur. L'air embaume la résine et le feu de cheminée. Puis, elle se dirige vers la cuisine. Ses narines se dilatent, ses yeux absorbent tout. Les dindes patientent dans les fours, ça fleur bon le thym, le laurier, le romarin, la cannelle, le chocolat, le caramel. On ouvrira les huîtres au dernier moment. Sur la grande table, recouverte d'une nappe immaculée, on a disposé les entrées froides et les mendiants. Herminie se garde bien de toucher à quoi que ce soit. Elle n'est pas envieuse. Elle attendra son moment. Elle achève son exploration par le petit salon et s'installe dans un fauteuil joufflu au cuir roux. Elle tend ses pieds nus vers la cheminée et se laisse couler dans la tiédeur comme repu des suites d'un repas avalé avec les yeux. Elle soupire de contentement. C'est là sa place, là, dans ce fauteuil doux et profond. Pour un peu, elle s'y endormirait. Au loin, elle entend les cloches sonner la fin de la célébration. Elle caresse le cuir roux, s'emplit une dernière fois les narines de son parfum et quitte les lieux en chantonnant. Depuis quelques nuits, Madame de Haute-Esclandre a du mal à trouver le sommeil. Bien sûr, il y a eu l'agitation de ces derniers jours. Les fêtes de fin d'année ne sont jamais de tout repos pour une maîtresse de maison, c'est bien connu. Mais à présent, le calme est revenu à la miroitière. L'école va reprendre dès lundi prochain et tout le monde est reparti, satisfait. Pourtant, Rose ne trouve pas la sérénité. Elle se sent comme la princesse au petit pois. Quelque chose la dérange et elle ne parvient pas à savoir exactement quoi. Charles peut-être. Il lui a semblé un peu différent ces derniers temps. Plus sage peut-être. Elle s'en est ouverte à Monsieur de Haute-Esclandre qui a haussé les épaules avant de replonger dans son journal. « Il grandit, ma chère. » « Oui, ça doit être la raison. Charles grandit. Il est en train de passer de l'état de petit garçon à celui de préadolescent. C'est normal. » Soudain, elle se dresse dans le lit. Monsieur de Haute-Esclandre grogne un peu. « Non, c'est autre chose. » Elle résiste à l'impulsion de secouer son époux, mais se retient. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Elle est devenue méfiante. Elle demande 10 fois par jour à aimer si les portes sont bien fermées, si rien ne risque de prendre feu dans la cuisine. C'est complètement absurde. Elle tente de se raisonner, mais cette inquiétude nouvelle qui l'occupe revient en force. Au fil des jours, ses joues se creusent, l'appétit lui manque. Sans cesse, elle observe Charles à la dérobée. Monsieur de Haute-Esclandre commence de s'inquiéter. « Il faut consulter !» Rose, obéissante, consulte donc Malherbe. « Des vitamines, c'est normal cette fatigue en hiver, on manque de soleil. Rien d'alarmant. » Rose suit la prescription, se force à manger. Madame Aimée y veille. Elle lui conseille de prendre modèle sur Charles. Il a un sacré appétit, le gamin, ces temps-ci. Toujours à réclamer du rab. Cependant, cette inquiétude ne la lâche pas. Ce petit poids sous le matelas de son existence. Charles évite soigneusement de croiser le regard de sa mère. C'est de sa faute, tout ça. Il n'a qu'un mot à dire. Mais, le nez plongé dans son bol de banania, il conserve le silence. Au village, les recherches mollement conduites par Mazard s'estompèrent au bout d'une semaine. Comme l'avait justement souligné Delic, si Herminie avait été l'une des leurs, l'affaire aurait pris une autre ampleur. Pour sûr, ça avait secoué les bonnes âmes, cette disparition. On n'est pas des sauvages tout de même. Et au moment de Noël encore. Certes, on interrogea Casso. Ainsi que le signifia le parquet avec complaisance, rien n'indiquait que le maire de Tombelac fût coupable de quoi que ce soit. Aucune charge ne fut retenue contre lui. Comme on dit, c'est pas à un homme de tenir les gosses quand même. Et puis, c'est bien connu. Les bonnes femmes sont capables de faire des histoires pour pas grand-chose. Bientôt, prophétisa Jojo, le philosophe du comptoir, on n'aurait même plus le droit de mettre une main au cul sans se retrouver derrière les barreaux. Comme un seul homme, la gente masculine de Tombelac se rangea du côté de son maire, injustement diffamé. Ces gamines, elles avaient tendance à raconter n'importe quoi. Casso n'était pas le seul à se défendre de ce genre d'accusation. On se rappelle assez l'histoire de la petite Marie Cornac, une drôle celle-là aussi. Et cette Herminie Machin, une étrangère en plus. Dire qu'ils l'avaient accueillie chez eux, à bras ouverts, si c'est pas un monde, tout de même. Dès lors, on regarda Cécile de travers. Abandonner son foyer, comme ça, sans raison, si c'est pas une honte. Pauvre monsieur Casso, il n'avait pas mérité ça. Et puis, c'était un bon maire. Il avait rendu de menus services à plus d'un, n'est-ce pas? On n'est pas des ingrats de chez nous, par chez nous. De leur côté, les femmes continuaient de jacasser. Mais les femmes jacassent toujours, c'est de notoriété publique. Pourtant, les convictions des unes et des autres ne tardèrent pas à diverger. Bon nombre d'entre elles qui avaient auparavant soutenu Cécile se rangèrent à l'avis de leur époux. C'est bien naturel. L'opinion publique porte des vestes réversibles. Mademoiselle Virginie, Annie Kirou et sœur Marie-Ange furent pour leur part sincèrement affectées de la disparition d'Herminie, elle. Elles tentèrent même une démarche infructueuse auprès du procureur. Fin janvier, sœur Marie-Ange, contrite, finit par envoyer aux religieuses de Budapest une lettre laconique où elle espérait que le Seigneur notre Dieu, dans sa grande miséricorde, ait pitié de la brebis égarée. Il faut signifier ici qu'un autre événement, autrement plus dramatique pour la petite communauté, occulta la disparition d'Herminie L. Le 1er janvier au matin, à 2h47 précisément, l'Alfa Romeo rouge de Luigi Diamani heurta de plein fouet le mur de l'enceinte du cimetière. Diamani au volant, à son côté, la jeune Cathy Monteil de Serianac, 15 ans, tous deux morts sur le coup. Bien sûr, on s'interrogea sur qu'est-ce que faisait la petite Monteil en compagnie de Diamani, 50 piges bien sonnées et bien mariées. Mais la véritable inquiétude de la population résidait dans le « qu'est-ce que vont devenir les employés des biscuits diamants ?» Les regards se tournaient vers le jeune Richard Diamani, à peine 20 printemps, et un petit pois en guise de cervelle. Tombelac trembla. À la surprise générale, l'exécuteur testamentaire de l'industriel local nomma Victoria Diamani, sœur de Richard, à la tête de l'entreprise. Personne à Tombelac ne connaissait Victoria Diamani, ni même n'en avait entendu parler. Placée dans une institution suisse du canton de Vaud depuis sa plus tendre enfance, afin d'y recevoir une solide éducation, elle surgit dans l'existence des Tombelaciens à la manière d'un astéroïde dévié de sa trajectoire. L'atterrissage fut rude, des deux côtés d'ailleurs. Curieusement, nul n'avait songé à ôter du cimetière la simple croix de bois ornée de la plaque de laiton gravée à la hâte par le forgeron et où on pouvait lire Herminie L. 1958-1967. Désormais, Florence s'y recueillait régulièrement. Elle apportait quelques fleurs des champs et toutes sortes de petits trésors dont les fillettes raffolent. Une gomme de plastique transparent qui sentait bon la fraise, un bouton de manteau orné d'une encre marine, une plume ronde pour tracer des lettres jolies, une cartouche d'encre de couleur dite des mers du Sud. Florence prenait place sur le petit monticule de terre et informait Herminie des dernières nouvelles. Corinne s'était cassé la jambe en faisant du patin à roulettes. Sylvie Lemereur avait laissé repousser ses cheveux. Christine et Martine se boudaient depuis une semaine pour une histoire de blouse. Madame de Haute-Esclandre avait offert un poney à cette crâneuse de Bénédicte. De retour du cimetière, Florence utilisait le raccourci du Paladou menant directement à Sainte-Bertille. Ignorant l'interdiction des pancartes décrépies, la fillette foulait du pied pierre, bois et cendres. Elle s'accroupissait alors et composait, à l'aide de petits cailloux et de branchages, de curieux édifices. Absorbée par son œuvre, elle ne s'interrompait qu'à la nuit tombée. Poussiéreuse et morte de froid, elle regagnait le presbytère où Madame René l'accueillait fâchée et morte d'inquiétude, exigeant de savoir où donc elle avait encore été traînée pour revenir dans un état pareil. Épilogue. Sa pelisse de vison jetée sur les épaules, Herminie, par la lucarne, observe un printemps précoce reverdir la nature. Sur le matelas, livres et cahiers éparpillés témoignent de son assiduité à l'étude. La nuit, parfois, elle se faufile à l'extérieur de la miroitière. Elle en connaît toutes les issues possibles et possède l'agilité d'un chat. Alors, elle se jette dans l'herbe tendre, converse avec le hibou, piste le renard, s'abreuve à la rivière. La journée, il lui arrive de consulter les miroirs. Sa solitude fortifie sa détermination. Des mois durant, elle tresse un fil de soie invisible qu'elle arrime solidement au cœur de Charles de Haute-Esclandre. Ainsi s'achève la première partie de l'histoire d'Herminie L. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi avec moi. Dès que possible, j'envisage d'éditer ce récit sur Amazon, plateforme sur laquelle, si le cœur vous en dit, vous retrouverez mon autre roman intitulé « Le château miroir », un récit choral entre science, magie, fantastique, mystère et histoire. Encore un grand merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Prenez soin de vous. Au revoir.